RMC jusqu'à 14h. Motors, Laurent-Frédéric Bollet.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Motors, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport mécanique. On va bien sûr parler MotoGP aujourd'hui, car c'est dans moins d'une heure maintenant que sera donné le départ de la 14e manche de la saison, le Grand Prix d'Aragon, avec le retour sensationnel de Valentino Rossi. On parlera également d'Indianapolis, la course automobile la plus rapide du monde. Figurez-vous qu'un défi français a été lancé pour participer aux fameux 500 miles l'an prochain. Didier Calmels et Tristan Gomendy, les deux acteurs principaux de ce projet, seront nos invités dans quelques instants. Je voudrais qu'on fasse vite un petit détour par le rugby, c'est important, hein, le top 14 avec un beau match Lyon-Castres qui est en train de se dérouler actuellement. C'est Edouard G qui est sur place. Salut Edouard.
Salut Laurent-Frédéric.
Alors, où en est-on?
30 minutes de jeu et le Loup a fait la différence, 17-9. Le Loup a eu du mal à rentrer dans le match, mais une fois les 10 premières minutes passées, le jeu s'est mis en place avec deux essais, le premier de Toby Arnold, le deuxième d'Ivaldi, les deux fois transformés par Lionel Boxis. Lionel Boxis qui a rajouté un drop. Donc pour l'instant, les Lyonnais sont efficaces et notamment devant, et le Castres Olympique ne répond que par des pénalités. Ça fait donc un petit break, 17-9, 31 minutes de jeu ici à Gerland.
Ok Edouard, c'est noté, on va te retrouver tout à l'heure. Alors, on va commencer si vous le voulez bien par la Formule 1 dans Motors et son actualité qui ne s'arrête jamais.
RMC Motors, tour de chauffe.
Et notre tour de chauffe, en attendant de retrouver Adrien Tambay, c'est un entretien exclusif que nous a accordé cette semaine Esteban Ocon, le jeune pilote français de l'équipe Force India, qui cette année est en train de crever l'écran, hein, tout le monde sera d'accord, eh bien était de passage à Paris. Il s'est confié au micro de Louis Amar et Timothée Mémon, et la première question qu'on lui a posée concernait bien évidemment le fait qu'il va continuer à courir l'an prochain pour Force India.
Satisfait de pouvoir rouler avec cette équipe avec laquelle j'ai fait du très bon travail cette année. On a fait du très bon travail. On est quatrième du championnat constructeur. Là, je suis huitième du championnat pilote, ce qui est super pour l'instant. Et de pouvoir refaire une année aussi, je vais pouvoir continuer à apprendre, travailler avec les mêmes personnes, ce qui va être important, et pourquoi pas faire encore mieux l'année prochaine.
Aujourd'hui, c'est le meilleur baquet que tu peux espérer en étant rookie en ayant été rookie et sans être encore dans les trois.
Ouais, bien sûr. Pour l'instant, on est quatrième, comme je l'ai dit. On est juste derrière le top 3 des équipes. Donc forcément, c'est une très très bonne équipe. Ils ont beaucoup de motivation. Ça grandit aussi à l'intérieur de l'usine. Il y a de plus en plus de moyens. Donc, c'est un très bon environnement.
Avec l'idée d'une progression logique vers Mercedes, peut-être, puisque tu es pilote Mercedes, que c'est un moteur Mercedes.
Forcément, ce serait la suite logique. Mais c'est pas à moi d'en décider. C'est au patron de le faire. Ils savent très bien faire les bons choix. Si je fais du très bon travail chez Force India, il n'y a pas de raison. Mais bon, ça, on verra par la suite. Je suis complètement concentré avec le travail que j'ai à faire avec Force India. C'est pas encore mon histoire.
Mais ça reste ton ambition quand même?
Mon ambition, c'est d'être champion du monde. Donc forcément, c'est d'avoir une voiture capable de me donner la performance pour me battre pour le titre. Donc,
aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a manqué sur ce début de saison pour arriver dans les trois, peut-être sur un podium, ou en tout cas au moins batailler pour ce podium?
Il a manqué un petit peu de performance. J'étais deuxième après le premier tour à Monza. Il manquait pas grand-chose, un tout petit peu de performance sur les Red Bull et les Ferrari. Mais on se bat quand même contre des grosses équipes avec beaucoup beaucoup plus de moyens. On n'est pas timide face à eux, donc c'est quand même énorme.
Pourtant la saison a été bonne, extrêmement régulière. C'est ta qualité première.
C'est gentil. C'est toujours sympa d'entendre ça. Mais je pense qu'il faut finir toutes les courses. Il faut être là pour avoir pas mal de points à la fin du championnat. Si on finit pas les courses, on n'a rien à la fin.
Un mot sur ton coéquipier Sergio Pérez. Ça a été parfois houleux sur la piste. Quel va être le statut l'année prochaine face à lui, qui a priori, d'après la sensation qu'on avait, était le numéro 1, toi le numéro 2?
Non, il n'y a pas de numéro 1, pas de numéro 2. Je pense que on a les voitures sont égales. On se bat à coup de dixième, donc forcément c'est très serré entre nous deux. Et c'est sûr que sur la course, c'est la même chose. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. On a tourné la page avec l'équipe et c'est un pilote qui est très coté. Donc c'est bien, il faut continuer.
Malaisie, Japon, les points forts, les points faibles de ta voiture, de ta personne sur ces deux circuits.
Ah, c'est deux circuits que j'apprécie vraiment. Avec la Manor l'année dernière, j'étais plutôt compétitif. On s'est battu avec les Sauber, ce qui était bien. Donc voilà, on va voir où est-ce qu'on est en performance, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas marquer de gros points encore une fois.
Peut-être aller batailler pour le podium, non, ça paraît difficile.
Ce sera difficile, mais voilà, on lâchera rien et on va faire le maximum pour.
On ne lâchera rien, voilà Esteban Ocon sur RMC dans Motors. Adrien Tombé est avec nous, salut Adrien.
Salut LFB, salut à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, Adrien, entre deux grands prix, effectivement, le grand prix de Singapour la semaine dernière, le grand prix de Malaisie la semaine prochaine, on va en reparler bien évidemment. Bah tout de suite, ta première réaction, ouais, sur cet entretien que nous a accordé Esteban. Moi, j'ai envie de resituer le contexte. 14 grands prix disputés cette année, Esteban est rentré 13 fois dans les points. Honnêtement, Adrien, c'est exceptionnel.
C'est ça qui est assez exceptionnel. En effet, LFB, c'est le fait d'arriver à comme ça finir toutes les courses ou presque, et en plus dans les points. Alors après, il a une Force India qui est quand même plutôt performante et plutôt réussie cette année. Mais ce qu'il faut vraiment souligner, c'est la réussite qu'il arrive à s'attirer en fait en course. Il passe toujours à travers les gouttes des incidents du premier tour, et puis ensuite il est performant en course, toujours très proche de son coéquipier Sergio Pérez. Et voilà, s'il y a un petit point noir, c'est peut-être le manque de perfo en qualif par rapport à Pérez, parce que je crois qu'il doit y avoir 4 à 10 en qualification au bénéfice de Sergio Pérez, mais encore une fois, le plus important, c'est de marquer les points, et c'est le résultat en course, donc c'est exceptionnel pour Esteban.
Bah oui. Alors si évidemment on voulait un petit peu titiller Esteban, qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup, bah on pourrait encore lui reparler de ce qui a un peu défrayé la chronique cette année. Je te propose, tiens d'ailleurs, d'entendre un petit montage là qu'on a fait, Adrien, et tu verras tout de suite de quoi on parle.
On est en deux pilotes qui poussent vraiment pour avoir un résultat, qui poussent pour être là. Lui, il est dans aussi une période critique de sa carrière, quoi. C'est maintenant ou jamais. Tout ça, ça fait que ça met un petit peu de pression et de rivalité. Moi, j'ai pas la pression, moi, je vais très bien. Ça fait plus de 40 courses en monoplace de suite que je finis. Je suis champion d'Europe de Formule 3, champion du monde de GP3. C'est plus de titres que lui, il a jamais gagné.
Damage. Right rear puncture.
Have a little look again.
Alors, des termes quand même assez forts prononcés par Esteban, qui, en quelque sorte, délimite la frontière entre lui et Sergio Pérez. Donc, Adrien, bah oui, tu l'as déjà évoqué. C'est quoi? C'est un reproche qu'on pourra quand même lui faire à Esteban de s'être raccroché deux fois dans l'année en Azerbaïdjan et en Belgique avec Sergio Pérez, son coéquipier?
Non, les accrochages en piste, à partir du moment où ils ont été, entre guillemets, permis par l'équipe, parce que chez Force India, on les a laissés se battre, même si c'est pas, même si c'est leur erreur à eux deux, sur le circuit, on leur a pas donné, d'ordre clair, c'est-à-dire on les a laissés se doubler s'ils le souhaitaient, en tout cas lors des départs. Maintenant, l'erreur qu'on peut peut-être attribuer à Esteban, c'est de se défendre comme ça, d'en parler, et à la limite, ça devrait lui passer au-dessus. Il n'a pas besoin de se justifier, parler des titres qu'il a remportés avant face à un Sergio Pérez qui, quelque part, je pense, ne recherche que ça. Il est là aussi pour titiller, et mentalement il y a tout un jeu d'intox qui s'instaure entre coéquipiers. Je pense que Sergio Pérez a quand même plus d'expérience là-dessus et plus âgé, et je pense que Esteban a plus à gagner à vraiment rester concentré sur son boulot comme il l'a fait. Les incidents qu'il y a eu en piste, il y a eu des moments où c'était un peu Esteban qui peut-être prenait un peu trop de risques sur le coéquipier. Par contre, on sait que Sergio Pérez, une fois qu'il a le casque sur la tête, il a du mal à réfléchir, et que ce soit son coéquipier ou un autre pilote, il est très rugueux. C'est le boulot de Force India, clairement, de mettre des limites, et à un moment donné, quand ça coûte trop de points et donc d'argent aussi à l'équipe à la fin de l'année, il faut mettre un point d'arrêt à tout ça. Maintenant, les deux pilotes qui se battent cher sur la piste, parce que ils veulent montrer qu'ils sont meilleurs l'un que l'autre, et maintenant ils ont été tous les deux reconduits, ils vont tous les deux rester chez Force India. Il y avait des incertitudes pour le futur, il y en avait, je pense que Sergio Pérez espérait quelque part partir, donc il prenait beaucoup de risques. Maintenant, la situation est à nouveau stabilisée politiquement, et je pense que tout ça doit se calmer.
Mais oui, moi je serais même pas loin de penser qu'après tout, après le clash, bah ça peut être une certaine forme de respect qui s'est aussi instauré entre les deux, et que on peut repartir sur des nouvelles bases. Hein, tu le sens peut-être aussi comme moi. Alors attends, Adrien, j'avais quand même une question à te poser. Toi, pilote, là, reprends ta casquette de pilote, Adrien. Ces relations entre coéquipiers, bon, il y en a qui considèrent qu'effectivement attaquer et se battre contre son coéquipier, c'est le crime absolu, si j'ose dire. Et puis il y en a d'autres qui peut-être se disent, oui, mais ils sont là aussi pour se battre et pour faire le spectacle. Bon, toi, en tant que pilote, t'as déjà eu ce genre de briefing, de dire vous attaquez pas les petits gars, je veux absolument pas un contact, ou est-ce que finalement c'est toujours a posteriori finalement et jamais a priori?
Non, en fait, moi j'ai fait 50 DTM, qui est un championnat où on a 7 coéquipiers, on est tous pilotes pour la même marque. En l'occurrence, pour moi, c'était Audi, et on était assez transparent sur ces consignes. On avait le droit de se battre si on se touchait pas, mais à partir du moment où on commençait à se toucher, c'était plus possible. Et là, on avait des remontrances, et c'était a posteriori.
Voilà.
Par contre, à un moment donné, quand ça a été répétitif entre coéquipiers, donc là, c'était vraiment les 8 qui commençaient à se toucher tous trop pendant la saison, et effectivement, ils ont mis des consignes en place dès le début du Grand Prix. Voilà, on avait le droit à du free racing pendant 3 virages.
Ouais.
Et puis au bout d'un moment, c'était gelé, et il fallait effectivement attendre ou demander la permission de dépasser. À ce moment-là, notre coéquipier nous laissait passer quand on était plus vite que lui, et que c'était vraiment clair. Donc c'était compliqué, et je pense qu'en Formule 1, c'est quand même un peu plus facile à gérer, parce qu'on a entre guillemets que 2 pilotes dans une même équipe.
Oui, bien sûr.
Et ça doit pouvoir se gérer.
Ouais, d'accord. Bon, c'était en tout cas très intéressant de t'entendre à ce niveau-là. Alors, j'ai d'autres questions à te poser. On va revenir, si tu le veux bien, Adrien, sur le Grand Prix de Singapour.
RMC Motors dans le rétro.
Alors, dans le rétro, tu te doutes bien de ce dont on va parler. Je voudrais que tu reviennes une semaine après ce Grand Prix de Singapour. La victoire de Lewis Hamilton, faut-il le rappeler, devant Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas. Mais donc, manque à l'appel, eh bien, messieurs Vettel, Raikkonen et Verstappen. Et on a tous en mémoire cet accrochage collectif dès le départ de ce Grand Prix de Singapour. Alors, on va pas tout réexpliquer, on part du principe que tout le monde connaît l'image. Adrien, une semaine plus tard, est-ce que t'as ton avis sur cet incident, et même ces accidents ont changé? Quel est ton avis une semaine après?
Mon avis, déjà, dans un premier temps, c'est que c'est un incident de course, qu'il ne doit pas y avoir de pénalité pour aucun des pilotes, parce que ces pilotes-là se battent et sont à la limite... tout le temps. Là, c'était un départ, c'était chaud, les conditions étaient compliquées, en l'occurrence, je pense que la faute, s'il faut la diriger vers quelqu'un, c'est forcément celle de Sébastien Vettel, parce que c'est lui qui avait raté son départ. Les deux autres, Kimi Raikkonen avait pris un départ tonitruant, et puis Verstappen avait aussi pris un départ correct, mais celui qui avait raté son départ, c'était Vettel, et qui est allé défendre sa position sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passait derrière, en fait. Donc il avait fermé la porte, et il pouvait pas imaginer que Raikkonen était lui à l'intérieur de Max Verstappen. Et puis après, ça fait c'est l'effet domino, un Verstappen pris en sandwich entre les deux Ferrari. Ça passe très fort, ça aurait pu passer, ça n'est pas passé, et après ça fait carambolage. Maintenant, ça n'a jamais été volontaire de la part de Sébastien Vettel. Il n'avait pas envie de rester au premier virage comme ça, c'est sûr, mais c'était un peu maladroit quelque part, parce qu'il avait raté son départ et qu'il avait envie de perdre le moins de place possible.
Voilà. Bon, écoute, je crois que je suis... j'attendais ton avis, hein. On l'a joué spontané, je t'ai pas demandé avant ce que tu en pensais 7 jours plus tard, je voulais vraiment avoir ton avis avec le recul. Moi, je pense comme toi, j'aurais même tendance à excuser un petit peu Vettel quand même, qui s'en est pris un peu plein la tête parce que tout le monde lui a reproché d'avoir tout gâché ses chances, et puis d'avoir mis le bazar au départ de ce Grand Prix.
Tu sais pourquoi, on s'en prend Vettel, parce que nous, quelque part, on est déçus.
Oui.
Parce que forcément, ça crée un un écart au championnat pour Lewis Hamilton maintenant, qui était quand même dans une spirale positive et qui là connaissait un petit coup dur en qualification. Donc on espérait quelque part que Sébastien Vettel reprenne un peu d'avance au championnat, en tout cas les commandes, pour que ensuite Lewis Hamilton puisse à nouveau essayer de revenir sur des circuits qui sur le papier correspondront un peu mieux à la Mercedes. On a un peu la pression que Sébastien Vettel maladroitement s'est tiré une balle dans le pied.
Mais non, mais tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. On était aussi d'autant plus déçus que du coup on focalise un petit peu sur Vettel. Alors si on veut l'excuser quand même, là, Hamilton lui-même l'a dit en conférence de presse d'après course, il y a dû y avoir un angle mort. Tu confirmes que l'angle mort, oui, existe aussi en compétition automobile?
Oui, il existe encore plus même en compétition automobile, parce qu'on est dans une monoplace au ras du sol. On a des rétroviseurs qui sont des plus des miroirs que des rétroviseurs. Ils sont vraiment tout petits, ils sont faits pour l'aérodynamisme, ils sont épurés au maximum et on voit vraiment difficilement. Donc en fait, on connaît une situation, on prend un départ, on sait plus ou moins où sont tel ou tel pilote, et en fonction du départ que l'on prend, on sait si on est dans une situation de danger ou pas. Mais après, on vérifie en regardant dans les rétros. Et là, en l'occurrence, je pense vraiment que Verstappen était dans l'angle mort. On voit Vettel bouger, changer de direction, mais il change de direction de façon douce quand même. C'est pas quelque chose de violent.
Oui.
Je pense qu'il hésite vraiment, il sait pas où est Verstappen, il bouge quand même histoire de fermer la porte, et puis bah au final, l'effet domino avec Raikkonen à l'intérieur qui lui essayait aussi de s'écarter du mur.
Ouais, voilà. Bah non, mais tout ça est un peu malheureux en fait, on en arrive aussi à cette conclusion, c'est vraiment une sorte de conjonction d'événements qui ont fait que bah ça a été catastrophique pour Ferrari, et c'est peut-être voire le tournant du championnat qui a eu lieu, on verra ça plus tard, mais enfin l'an dernier, souviens-toi, le Grand Prix de Malaisie, tiens, bah que tu vas commenter dimanche prochain, c'est bien là où Hamilton a renoncé suite à une casse moteur, c'est bien là c'est ce qui a fait la différence par rapport à Rosberg. Donc marquer 0 point d'un coup pour Vettel, bah on se rendra peut-être compte dans un mois et demi que c'était là effectivement le moment clé du championnat. Bon, en tout cas, t'es prêt pour la Malaisie le week-end prochain, tu connais les horaires, hein, ils sont un peu spéciaux, c'est 11h le samedi, la qualif, 11h du matin heure française, hein, puisqu'on est en décalage horaire bien sûr, et 9h du matin heure française le dimanche pour le Grand Prix. Comme ça, c'est assez amusant, il y a 2h d'écart. Bon, bah écoute, Adria, t'es prévenu, je te remercie beaucoup d'être intervenu aujourd'hui dans Motors pour nous faire part de tes avis qui étaient très pertinents. Salut Adrien, à bientôt.
Salut à tous.
Allez, on va refaire un petit détour par Lyon. C'est la mi-temps, je crois, hein, Edouard G, pour le match Lyon-Castres en top 14.
Exactement, 24-12 pour le loup qui confirme son début de saison prometteur. C'est précis, c'est chirurgical, c'est organisé, c'est malin. On alterne la force et la finesse, notamment dans le troisième essai de cette première période. Il y a eu celui de Toby Arnold, il y a eu celui de Michael Ivaldi et d'Alexis Palisson. Un premier temps de jeu, un deuxième, un troisième avec une percée de Karl Fernz. Là, c'était la force. Et ensuite, il y a eu la finesse au final d'Alexis Palisson. Et donc, ça fait trois essais à rien. 24-12 pour l'instant pour le Loup à la mi-temps.
Voilà, le double de points au bénéfice d'une équipe par rapport à l'autre. C'est noté, Edouard. À tout à l'heure. Allez, Motors qui continue. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors. Laurent Frédéric Bollet.
13h26, on est ensemble jusqu'à 14h. On vient de parler Formule 1, on va parler MotoGP en fin d'émission, mais je voudrais maintenant qu'on entame la deuxième partie de Motors. On va parler Indianapolis, une des courses les plus célèbres au monde, avec un défi français, figurez-vous, qui est en train de se mettre en place pour aller donc essayer de conquérir les États-Unis.
RMC Motors.
120.
Le briefing.
Alors, le briefing avec deux invités aujourd'hui qui sont avec nous en direct. Tristan Gomandi d'abord. Salut Tristan.
Bonjour Laurent Frédéric.
Et puis dans quelques instants, c'est Didier Calmels qui te rejoindra, mon cher Tristan, pour nous parler donc de ce fameux défi français qui va s'attaquer à Indianapolis, les 500 miles d'Indianapolis au mois de mai prochain. Alors je voudrais d'abord te donner la parole, Tristan. Je précise d'ailleurs que je suis en train de t'interrompre dans un véritable travail, puisque tu es normalement cet après-midi en train de commenter la course d'European Le Mans Series en direct sur Motorsport TV. Donc tu Absolument. Nous fais une petite infidélité pour répondre sur RMC. Merci à toi, Tristan.
Pas de quoi, c'est avec plaisir.
Bon, en tout cas, donc Indianapolis. Indianapolis. Bah, tu vas en faire partie, hein, Tristan. Je crois que maintenant, on a tous appris la nouvelle. Dans 8 mois, tu seras au départ d'une des 3 plus grandes courses du monde. Hein. C'est comme ça qu'on la nomme. Hein. Il y a le Grand Prix de Monaco, il y a les 24 heures du Mans, il y a les 500 miles. Et donc, a priori, c'est toi le pilote, hein, de ce défi français. Tu peux nous dire ce que tu ressens lorsque je te rappelle ça de manière un petit peu brute?
Ouais, une petite montée d'adrénaline.
forcément.
On essaie de. Je pense que ça va être important de garder beaucoup de calme et de sérénité jusqu'au bout de ce projet. Ce sera pas forcément chose facile à certains moments, mais ça fera partie de l'objectif, et ce sera très important pour tout le monde de garder la tête froide jusqu'au bout et si possible jusqu'au dernier tour de cette épreuve.
Bah oui, alors je rappelle évidemment, Tristan, qu'on te connaît bien. Tu as été champion de France de Formule 3 il y a bien des années déjà, mais tu as enchaîné par une victoire au prestigieux Grand Prix de Macao, véritable championnat du monde de Formule 3. T'as été champion d'Europe d'endurance, t'as été en Champ Car aux États-Unis déjà avec une pole position, où tu as côtoyé déjà Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud, les deux pilotes actuels français de l'IndyCar. Tu es actuellement pilote en championnat du monde d'endurance. Bon, tu es un pilote aguerri, ça on est d'accord, et on va pas te l'enlever. Simplement, il va falloir maintenant que tu sois sur un ovale où la vitesse moyenne autour est de plus de 350 km/h. Est-ce que même pour toi ça va être un sacré challenge?
Oui, c'en est un, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait le championnat de Champ Car, avant qu'il s'arrête, on avait que des routiers. Donc, même si effectivement j'ai une expérience des États-Unis et de ce genre d'auto, pour en avoir fait quand même pas mal d'années, puisque les autos aussi en Super League Formula pendant 5 ans, c'était à peu près les mêmes autos. Donc, je connais bien ce genre d'auto. Par contre, c'est vrai que les ovales étaient quelque chose qu'on n'avait pas dans le championnat. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a déjà fait une journée au simulateur Honda.
Ah oui. Alors.
Donc ça m'a permis de me rendre compte déjà un petit peu visuellement, et puis du feeling. Le simulateur est assez, il est très très bien fait. Donc, la
vitesse, tu la ressens même au simulateur, tu l'as ressenti?
Ouais, oui, parce que le simulateur est vraiment top niveau. Donc tout de suite, on a quand même ce feeling. Et avec cette impression aussi bien corporelle que visuelle. Mm-hmm. Donc ça c'était un très bon point de pouvoir faire ça assez rapidement pour avoir une idée de ce qui nous attend. Et puis de toute façon c'était aussi un passage obligatoire.
Ah oui.
À la demande de l'organisation des 500 miles, à la demande de l'équipe technique qui va venir soutenir ce projet. Il y avait cette demande pour avoir quand même aussi eux un retour et un feeling du pilote. C'était important, ça s'est très bien passé. Voilà, donc
ouais,
ça, c'est
maintenant,
une première étape.
Très bien, ouais.
C'est important que ça se passe bien, parce que c'est un rapport qui a aussi été communiqué un peu à droite à gauche pour valider ma candidature. Donc ça c'était bien, et c'était important pour moi aussi de pas rester dans l'inconnu. Voilà, parce que l'ovale, on le voit à la télé, l'imagine, mais il y a rien qui remplace quand même de monter dans un cockpit et de pouvoir avoir son propre feeling.
Oui.
Donc ça a été fait positivement. Donc c'était la première étape.
Bon, et alors le roulage proprement dit, les premiers tours véritablement sur l'ovale, c'est prévu pour quand?
Alors, il y avait une date de prévu. On est en train de travailler sur le sujet, parce qu'en fait, il y a des process assez sérieux aux 500 miles, notamment les contrôles antidopage obligatoires pour la licence Indy. Donc, on est dans ce process-là. Ils sont en train de m'envoyer des petits bocaux. Il va falloir que je fasse un petit pipi. Donc ils ont leur process qui est vraiment intransigeant.
Oui,
donc,
oui, c'est normal.
Donc on doit les respecter. Donc en fonction de ça, bon, il y a aucun doute sur les résultats, bien évidemment, mais malgré tout, au bout de ce process, on va essayer de trouver un roulage possible avec les contraintes météorologiques, parce que j'ai cru comprendre qu'en dessous de 15 degrés, on ne roulait pas sur ovale. Donc le temps se fait pressant maintenant, puisque on arrive fin septembre. Il faut On envisage éventuellement un roulage à Miami sur le circuit Homestead, mais on n'a pas encore déterminé tout à fait une date. Et si toutefois c'était pas possible de le faire rapidement, on envisagerait un complément de roulage avec l'auto 2018 peut-être. Mais tout ça est en discussion au jour le jour avec avec l'équipe.
Mais oui, mais non, mais c'est une véritable aventure là que tu es en train de vivre. Et le responsable aussi de cette aventure, bah il est là aussi avec nous, hein, donc on va pouvoir dialoguer. Enfin, vous allez pouvoir dialoguer. Nous, on va pouvoir discuter à trois. C'est Didier Calmels qui est avec nous en direct. Bonjour Didier.
Bonjour.
Merci. Bonjour, tout le monde est branché avec tout le monde. Super. Alors Didier Calmels, homme d'affaires, fan de sport mécanique. Didier, hein, on se souvient bien sûr de cette équipe Larousse Calmels en Formule 1 dans les années 80. Vous êtes actuellement aux commandes de l'équipe Signatec Alpine en championnat du monde d'endurance. Et puis bah donc maintenant il y a la carte américaine que vous abattez. Il y a le défi, parce que je crois que le terme est vraiment bien le bon. C'est un défi français. C'est vous qui êtes derrière ce défi français pour aller s'attaquer à Indianapolis. Pourquoi Didier, vous lancez-vous dans cette aventure?
Alors écoutez, d'abord c'est effectivement les villes à passion. Indianapolis, c'est une course qui m'intéresse depuis l'adolescence. Je la trouve, tout le monde connaît le mot Indianapolis, mais les fans français ne connaissent pas vraiment l'histoire d'Indianapolis, que c'est tout. Et moi, je la connais un petit peu et j'ai trouvé que c'était formidable de faire ça. Après, il y a l'idée d'Alonso qui a été pour moi un vrai déclic.
Ah bah oui, ça je voulais vous poser la question. Est-ce que ça a joué?
Ça a été le déclic total. Parce qu'il a visé ce que nous appelons la triple couronne. Et c'est un défi formidable, c'est-à-dire le Grand Prix de Monaco F1, Indianapolis et Le Mans. Mm-hmm. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel. Et voilà, il se trouve qu'on m'a soufflé que je serais le premier Français à avoir, en tant que concurrent, participé à ces trois épreuves. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup motivé, quoi.
Bah, oui.
Et on a repris les couleurs de la F1. On a sur pont Indianapolis et on est en train de voir avec Tixino pour utiliser aussi. Ce projet pour Le Mans, quoi. Donc comme ça on aurait fait les trois et ça serait assez fantastique, quoi.
Bon bah écoutez, c'est extraordinaire. Est-ce que Tristan, tu es sensible aussi à cette fibre un petit peu patriotique, j'allais dire française?
Oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce que Didier a amené ce projet et pousse la France, et je crois que ce qui est important dans le projet, plus que Didier Calmels, que Tristan Gomendy ou les noms qui vont pouvoir graviter autour de ça, c'est vraiment d'amener ce projet et de parler de la France et d'avoir cette aventure française qui traverse l'Atlantique dans cette épreuve hors norme. Donc c'est quelque chose, on avait nous ce feeling avec Didier quand on a commencé à collaborer. Et en fait, les retours qu'on a aujourd'hui nous confirment qu'il y a un vrai engouement et on s'est pas trompé sur l'idée principale d'amener la France aux États-Unis dans cette épreuve hors norme. Voilà.
Alors Didier, pourquoi avez-vous choisi Tristan aussi? Parce que de manière un peu amusante, je pourrais vous dire qu'il est votre adversaire dans le championnat du monde d'endurance, puisqu'il pilote pour l'équipe Jackie Chan, la fameuse équipe de Jackie Chan, et vous êtes avec Alpine.
Ouais. Alors tout d'abord, pour préciser, c'est vraiment, vous l'avez tout à fait dit exactement, c'est comme un bateau français qui participera à la Coupe América, c'est ça.
Ouais.
Et on a la chance que ça soit quasiment en prime time sur Canal+, qui est notre partenaire, à 20h. Donc c'est absolument merveilleux. Pourquoi Tristan? J'avais fait une shortlist en consultant beaucoup Philippe Chino et voilà, on avait retenu 3-4 noms. Les Américains, Sam Smith et Peterson, voulaient pas d'un débutant, voulaient quelqu'un qui ait fait beaucoup de monoplace, qui soit très mature. Vous savez que les moyennes sont extraordinairement élevées.
Bah oui, on en parlait là. C'est ça. Ouais, en vitesse de pointe, c'est sûr.
Non.
En moyenne, vous voulez dire? Ouais.
Et 4 tours de qualification, c'est à fond. Et je vous assure que quand vous voyez les virages, ça fait peur. Alors, on avait fait une shortlist, et je vais vous dire la vérité. Quand j'ai regardé, j'ai parlé aux 3 ou 4, et quand j'ai regardé Christian dans les yeux, il a même pas hésité qu'un seconde. Il a dit évidemment oui. Et ça, c'était très important, vous voyez. Parce que il faut beaucoup de détermination, beaucoup de savoir-faire qu'un Tristan, énormément d'expérience, être très fin metteur au point, mais où il faut aussi une envie invraisemblable, parce que c'est vrai que c'est quand même une épreuve absolument pas comme les autres.
Et, oui.
Et donc, il vaut mieux aller avec quelqu'un qui a infiniment plus envie que tout le monde. Et Tristan, bah, c'est un battant, on le connaît, c'est un combattant, très bon metteur au point. Et il a l'âge maintenant pour affronter une épreuve où il ne faut pas vraiment faire vraiment de faute. Quoi, hein. C'est, tout le monde le sait. Hein.
Bon, bah, Tristan, j'imagine que ce sont des mots qui te touchent. Est-ce que, au-delà de ça, tu avais, allez, je ne vais pas dire une petite revanche, mais un petit coup d'inachevé avec ta campagne américaine il y a quelques années de cela?
C'est pas faux. Mais c'est vraiment, très bonne question. Merci de me la poser.
De rien. Je suis là pour
c'est
ça.
C'est pas faux parce que c'est vrai que j'ai raté le coche, bon, pour des raisons complètement politiques, avec Williams quand j'avais un contrat avec eux en 2006. Et j'ai pas pu poursuivre le GP2 et le programme qu'on avait mis en place avec Frank Williams. Et puis j'ai eu cette opportunité d'aller tester en champ car et de faire cette saison qui s'était bien déroulée. J'avais un contrat qui était quasiment signé pour l'année suivante, et puis le champ car, l'organisation a décidé de tout arrêter, je crois 3 semaines, 1 mois avant la première course. Donc j'étais un peu orphelin, et puis les équipes avec lesquelles j'étais en train de discuter et celles qui étaient capables de prendre un pilote professionnel, il n'y en avait pas beaucoup. Ne souhaitait pas aller et retourner sur Oval. Donc je suis revenu en Europe un peu la mort dans l'âme, tout en sachant que même un Sébastien Bourdais, avec le talent qu'on lui connaît, a mis plusieurs années à revenir en IndyCar. Donc moi, c'est vrai que je suis parti en Super League Formula, ça s'est très bien passé, et puis j'ai eu le parcours, et je regrette rien, qui a été le mien par la suite, mais c'est vrai que les États-Unis et l'amour qui en est sorti entre moi et les États-Unis, parce que j'ai gardé d'excellentes relations avec beaucoup de gens là-bas, et mon passage a quand même laissé, on se rappelle un peu de moi. Donc j'étais déçu, effectivement, à titre personnel, de pas avoir pu continuer l'aventure aux États-Unis. Pour les raisons qu'on connaît pour les professionnels, on sait que les Américains, la course aux États-Unis est quand même très très différente de l'Europe. Avec un engouement, avec une philosophie complètement différente. On aime, on n'aime pas. En tout cas, moi, j'adhère à 400%. Donc, c'est vrai que ça faisait partie, il est vrai, des regrets dans ma vie de pas avoir pu continuer ma carrière aux États-Unis. Donc, quand Didier est venu avec ce projet, alors non seulement les 500 miles, moi, c'est un truc qui me branchait énormément,
ben voilà.
Que je n'envisageais plus, très honnêtement, de faire. Quand Didier est venu avec ce projet, bien évidemment, c'est vrai que Didier, tout de suite, respectueusement, connaissant aussi ma femme, m'a dit « Écoute, Tristan, parle-en à ta femme, tu me donneras ta réponse demain. » Alors, ok.
D'accord, sympa.
Et, alors, c'est vrai que respectueusement, moi aussi, j'ai appelé ma femme.
Oui, c'est tout à ton honneur.
Mais en tout respect, je ne sais pas si elle m'écoute, mais en tout cas, quelle que soit sa réponse, ma décision était prise.
Oui, bah oui, c'est ça qu'on a compris, oui, tout à fait.
Donc ça m'a facilité la vie, qu'elle m'encourage à 100%, et elle l'a tellement fait positivement, et je l'en remercie, elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle a tellement pas hésité que pas tout de suite, mais enfin, il y a un moment donné, j'ai commencé à lui expliquer ce qu'étaient les 500 miles. Et
oui,
dire attention, c'est super,
oui,
mais il va y avoir quand même quelques contreparties et quelques risques. Donc, mais même après lui avoir expliqué quand même certaines choses, elle me soutient aujourd'hui à
400%. Oui,
et
non, Didier, c'est ce que vous vouliez entendre aussi de la part de Tristan, bien sûr.
Ce que je voudrais dire aussi, c'est Tristan, pour les spécialistes, pas pour les fans du sport automobile, il a été, si vous en souvenez, moi j'étais certain à son début de carrière, quand il y a des choses extraordinaires qu'il a fait en spec, j'étais certain qu'il allait aller en F1. Mm-hmm. Il me fait penser à un autre pilote aussi que j'ai eu la chance d'avoir dans une écurie, c'est Emmanuel Collard. Ils sont passés à très très peu de choses de la F1, il méritait d'y aller.
Mais oui.
Et là je trouve qu'arrivé à son âge, si on fait des belles choses, je suis très heureux que ça soit lui. Voilà.
Alors Didier, bon, on va être obligé de s'interrompre, et vous pensez bien qu'on pourrait discuter encore bien des heures, mais bon, je pressant qu'on se retrouvera tout
plaisir.
Au long de l'hiver pour prendre des nouvelles de ce défi, parce qu'on a encore pas mal de choses et à se dire.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me permettre un petit message personnel? Je voudrais dire à Bernard Tapie, à sa femme, à sa famille,
que je les aime et voilà, et que je lui souhaite le meilleur. Voilà.
Oui, tout à fait. Bon.
Je suis désolé, hein.
Bon, mais non, il n'y a pas de problème. Le message est passé, Didier. Alors, ce que je vous propose, Didier Calmet, parce que j'avais éventuellement une question à vous poser par rapport à votre partenaire américain, Sam Schmidt, qui est un patron d'équipe emblématique et dans un fauteuil. Oui. C'est une histoire aussi humaine très, très forte. Allez, peut-être pour conclure juste dans ces 8 mois de compte à rebours, là, qui sont entamés à partir de maintenant. Vous imaginez quoi comme résultat quand même? Est-ce qu'il y a même un objectif d'ores et déjà de résultat qui a été un peu fixé, Didier Calmet?
Alors, je vais vous dire, on a comme consultant ami Stéphane Grégoire, qui est un Français qui a fait 8, c'est lui qui a fait plus de fois Indianapolis. Il faut bien comprendre à Indianapolis, ce qu'il faut, c'est rester dans les 10 premiers jusqu'à une demi-heure de l'arrivée. Mm-hmm. Et c'est pas si simple que ça. Il faut de la réussite, de la chance, il faut du talent, il faut que l'équipe soit parfaite. Quand on arrive dans les 10 premiers à 20-25 minutes de l'arrivée, alors oui, tout peut se passer. Et Tristan a une chance, effectivement, de faire quelque chose d'exceptionnel. Mm. C'est pas déraisonnable de penser qu'on peut gagner. Oui, c'est vrai. On a mis tout en bout pour que ça soit ça.
Bon.
Ça serait pas... Mais vous savez, Rossi, il y a 2 ans, a gagné. Non, je pense qu'il faut, c'est qu'il soit... Il faut suivre la course. Et à 25 minutes, il est dans les 7-8-9 premiers. Je peux vous dire... Notre cœur va battre. Nos cœurs vont battre. Voilà. Parce que tout est possible.
Bon, tout est possible à Indianapolis. On est bien d'accord. Bon.
Il faut arriver dans les 20 minutes. Donc, c'est ça. Extrêmement bon.
Allez, voilà. on va s'arrêter là, mais croyez bien que j'aimerais bien reprendre assez vite cette conversation et je n'en doute pas qu'on y arrivera. Alors, Didier Calmet, donc, et Tristan Gomandi, je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour nous aujourd'hui. Et voilà, le défi français, donc, est lancé pour Indianapolis 2018. On en reparlera. Merci, messieurs. À bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.
Voilà, c'était très très intéressant. On va aborder la dernière partie de Motors en quelques instants. J'aurais juste qu'on refasse un petit détour par le rugby, le top 14, Lyon-Castres, Édouard G. Est-ce que le score a évolué? Il y avait 24-12 pour Lyon il y a quelques instants, enfin à la mi-temps en tout cas.
Eh ben, faut rajouter 7 points, un essai, 7 points pour le Loup, 31-12. On est à la 49e minute et le Loup qui fait la différence même à 14 contre 15 puisqu'il y a eu un carton jaune juste avant la mi-temps. Eh bien, même pendant ces 10 minutes où les Lyonnais sont donc en infériorité numérique. Ils font parler leur force avec Karl Ferns qui a fait une énorme percée en contre. Derrière, il a donné le ballon à Toby Arnold. Et puis, la révélation de ce début de saison, Baptiste Couillou, le demi d'ouverture qui va à Dame et qui va marquer donc le 4e essai lyonnais. Donc, les Lyonnais qui, pour l'instant, s'envolent 31-12. Nous en sommes à la 50e minute.
Merci, Edouard. Aurélien Tiercien me rejoint. Salut, Aurélien.
Salut, LFB. Salut à tous.
Il n'y a pas un temps mort dans Motors. Tu as remarqué, donc tu es dans les starting blocks, mon cher Aurélien, parce qu'on va parler MotoGP dans quelques instants seulement.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Laurent-Frédéric Bollet.
Et on entame sans plus tarder la dernière partie de l'émission.
RMC Motors.
World champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Avec Aurélien Tiercien qui est avec nous. Aurélien, on va passer en revue un petit peu l'actualité des sports mécaniques, mais on va évidemment focaliser sur le MotoGP parce que ça y est, on est dans le compte à rebours là aussi, hein, dans une grosse dizaine de minutes, départ de la 14e manche de l'année, le Grand Prix d'Aragon. Je voudrais quand même que tu nous donnes les résultats des courses ce matin, Moto 3 et Moto 2.
Rapidement donc en Moto 3, la victoire de l'Espagnol Joan Mir. En Moto 2, c'est l'Italien Franco Morbidelli. Et ça va vite, tous les deux, c'est leur 8e victoire de la saison. Oui. Tous les deux sont largement leaders de leur championnat respectif.
Bon, bah donc oui, là c'est clair, je crois qu'on connaît d'ores et déjà, parce qu'après il y a plus que 4 grands prix, hein, donc ça peut aller très vite, mais Mir et Morbidelli devraient être champions du monde quand même dans leur discipline respective. Alors on va évidemment se concentrer sur le MotoGP. Bah écoute, je te propose que tu nous donnes la grille de départ et puis on va détailler quelques forces en présence, je n'en doute pas.
La pole position pour l'Espagnol Maverick Vinales. En première ligne, on retrouve à côté de lui un autre Espagnol, Jorge Lorenzo, et un certain Valentino Rossi. La deuxième ligne avec Karl Crutchlow, Marc Marquez et Dani Pedrosa. Andrea Dovizioso, l'Italien co-leader du championnat du monde, lui ne partira qu'à la 7e position. Pour les Français, c'est un peu plus dur. Joan Zarco, 11e et Loris Baz est 17e. Mais toi, ce qui t'intéresse, LFB... C'est cette 3e place de Valentino Rossi, 3e place un peu hallucinante, double fracture tibia péronée de la jambe droite il y a 3 semaines, et voilà, il est là, rapide, comme si de rien n'était, il t'a bluffé.
Oui, quand même. Tu te souviens, Aurélien, qu'il y a 15 jours de cela,
professionnel, tu disais.
Ouais, on avait entamé le débat. Jean-Luc Croix y avait participé et moi j'avais défendu un petit peu l'avis que Valentino Rossi n'avait pas le droit de nous faire ça. D'abord au niveau du spectacle, voilà, il était absent, ça nous désolait. Et puis au niveau de ses responsabilités à lui en tant que pilote officiel, en tant que légende de son sport, bah se casser la jambe à 5 grands prix de la fin, fallait-il prendre ce risque? Avait-il simplement le droit de mettre un petit peu sa santé en jeu alors qu'on est dans une période cruciale de la fin de saison? Et je te rappelle qu'à ce moment-là, il était qu'à 26 points du leader du classement, donc il jouait le titre. Et j'ose même tendance à penser qu'il le joue toujours. Bon, donc ok, ça on l'a dit, j'en ai fait le reproche à Valentino Rossi. Jean-Luc, tu te souviens, défendait l'idée qu'un sportif de son niveau, ça doit aussi s'entraîner, que la moto...
Et s'il est assez fou pour se blesser, ouais. Il est assez fou pour revenir très vite.
Bah oui, non mais alors ça c'est ça qui est incroyable, parce que on avait misé sur, raisonnablement en plus, hein, sur deux grands prix d'absence. Les docteurs avaient dit, il y aura entre 30 et 40 jours d'absence. Or, en fait, aujourd'hui, on n'est que 22 jours après sa double fracture de la jambe droite. Donc là, il défie l'entendement. Faut être honnête, Valentino Rossi. Donc,
il avait déjà fait le coup en 2010, ouais. si je me souviens bien. Il était revenu très rapidement. Cette fois, il est revenu encore plus rapidement. Il a dit qu'au bout d'un jour, il avait déjà pu se lever pour aller aux toilettes, pour la petite histoire. Et du coup, il a pu reposer sa jambe droite.
Non, mais écoute, je crois que là... qu'est-ce que je pourrais dire si je voulais pinailler? Je pourrais dire que, à l'arrière, est-ce que c'est prudent pour lui? Parce que j'espère qu'il met pas quand même sa santé au niveau de l'état de sa jambe en jeu. Je pourrais éventuellement dire que ses petits camarades doivent être jaloux, parce que quand il est pas là, il fait l'actu. Quand il revient, il fait l'actu. Mais enfin, on parle plus des Marquez, des Dovizioso, et peut-être qu'effectivement, ils sont jaloux. Mais là, il y a rien à dire que de s'incliner, dire chapeau, bravo l'artiste.
Et tu crois au podium, enfin,
écoute,
Grand Prix?
En tout cas, Johann Zarco, tu as vu sa déclaration, ouais. A dit, on doit tous avoir honte, nous qui sommes qualifiés derrière Rossi.
Ouais, 38 ans, hein, Valentino, ouais. Rossi.
Alors écoute, j'ai l'impression quand même sur la durée du Grand Prix, ça va peut-être être un peu plus difficile qu'on le croit quand même. Je rappelle que Rossi n'a jamais gagné à Aragon. C'est un des trois circuits où il ne s'est jamais imposé. Est-ce que c'est un petit signe En tout cas, là, je regarde un peu les images entre répondants. Je te le dis franchement, il y en a que pour Rossi. Bon, voilà, au niveau médiatico et l'histoire de ce Grand Prix aujourd'hui, c'est le retour de Valentino Rossi. Et force est de constater que pour ce 900e week-end de course dans le cas du champion du monde moto, d'ailleurs, hein, c'est aussi un Grand Prix un peu symbolique. Et ben ça va être sa 361e participation à Rossi, toutes catégories confondues. Donc il a fait 40% de toutes les courses de l'histoire du championnat du monde. Bon bref, t'as compris.
Une légende.
C'est une légende. Il est là aujourd'hui et il a 42 points de retard sur Marquez et Dovizioso qui sont en tête ex-aequo au championnat. Bon,
ça va être compliqué quand même.
Mais bon, écoute, il est extraordinaire et aujourd'hui il écrit encore une page assez mémorable de l'histoire de son sport. Voilà.
Bon, on va parler de choses un peu moins réjouissantes pour les Français, pour un Français en particulier, Loris. Baz, pardon, le pilote de 25 ans, ne sera plus en MotoGP l'année prochaine. Viré par son team espagnol Reale Avincia, ça te chiffonne un peu ce départ de Loris Baz?
Oui, alors d'abord, ça nous chiffonne évidemment d'un point de vue un petit peu franco-français, mais c'est normal. Bon, on a deux pilotes français en MotoGP. Johann Zarco et Loris Baz. Bon, s'il y en a qu'un l'année prochaine, tant mieux pour lui, mais c'est évidemment un petit peu regrettable.
Enfin, sportivement, il était un petit peu en dessous de Johann Zarco.
Oui, bien sûr.
On peut le voir comme ça.
Johann Zarco, c'est la révélation de l'année, c'est même la meilleure révélation en MotoGP depuis bien des années, toutes nationalités confondues. Donc là, on a un champion. On en parlait avec le président Boll il y a 15 jours de la Fédération Française Moto. La question n'est pas de savoir si Johann va gagner un Grand Prix, mais bien quand, parce que c'est évident, double champion Moto2, on refait pas l'article, c'est clair. Loris Baz, on peut quand même constater que c'est un pilote qui n'a pas du tout démérité, humainement très sympa, qui a toujours participé d'ailleurs à notre émission quand on le sollicitait, et qui a quand même réussi des classements vraiment bien, dans le top 5 même une fois, je m'en souviens, profitant souvent des conditions météo difficiles, il excellait vraiment sous la pluie, arrivant à se faufiler pas mal lorsque les conditions étaient difficiles, et quand je vois qu'il est 15e actuellement du championnat avec 39 points, sachant qu'il fait partie évidemment d'une petite équipe, on va dire ça comme ça,
il a la Ducati. Plus vieille moto du paddock, une Ducati 2015.
Donc, moi je dis quand même, bravo, merci à Loris qui s'est montré. En plus, il est gêné, tu le sais, par sa grande taille. Hein. C'est le pilote le plus grand du plateau. C'est un handicap, faut bien en avoir conscience.
Cette année, il a terminé son meilleur résultat, c'est 8e à Assen aux Pays-Bas. Est-ce que c'est un exploit quand même malgré sa moto? C'est pour toi, est-ce qu'il n'y a pas un petit manque d'une étincelle justement pour donner envie à une écurie de le garder?
Si tu compares avec la Formule 1, dès qu'on est dans les points, dans les 10 premiers tout à l'heure, je parlais d'Esteban Ocon qui est 13 fois dans les points, mais la semaine dernière à Singapour, il est 10e. Bon, c'est pas le meilleur résultat possible, mais il est quand même dans les points. Eh bien, quand Loris Baz est dans les points, c'est une excellente performance de sa part. Moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'au-delà de la perte, on va dire amicale d'un pilote qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'il est remplacé par Xavier Siméon. Alors je lance pas un contrat sur Xavier Siméon.
Oui, ça va pas devenir ton ami aujourd'hui.
Oui, oui, parce que pourquoi? Bah, Xavier Siméon, il est belge, très bien, j'ai rien contre les Belges, il a 28 ans, bon, c'est pas un jeune pilote non plus. Il est en Moto 2 depuis 2011, j'ai bien dit 2011, il y a 6 ans. Il n'a qu'une victoire à son palmarès. Bon, enfin, au moins, il l'a fait, mais il n'en a qu'une. Et il est actuellement 17e du championnat du monde Moto 2. Là où tu viens de dire, il y a quelques instants, que Morbidelli venait de remporter sa 8e victoire. Bon, donc, on a compris que Xavier Siméon franchit enfin le palier ultime qui le fait aller en MotoGP, qui a des partenaires derrière, que c'est un peu financier à la base, que Loris a été un petit peu viré aussi. Bon, donc voilà, ça me chagrine parce que c'est un peu comme toujours, c'est pas la situation sportive qu'on
qui
préfère
effectivement.
Voilà.
Ouais. Bon, on va passer rapidement.
Alors, il va rebondir quand même, Loris a priori
en superbike,
c'est pas encore
c'est
fait.
C'est d'où il venait avant d'arriver en MotoGP.
Donc on pense que c'est le moindre des destinations.
C'est le moment d'être honteux de retourner en superbike.
Non, tout à fait. C'est même très très bien. Voilà.
On est-ce qu'on a un petit peu de temps pour parler de WRC?
Oui, vas-y.
Rapidement. Donc ça continue de bouger à Citroën. On parle toujours de l'arrivée de Sébastien Ogier pour l'an prochain. Mais il y a aussi Sébastien Loeb, évidemment. Et lui, il a pris un petit peu d'avance. Il a testé la voiture sur la terre la semaine dernière. Mmh. Alors déjà, est-ce que tu as des petits échos de comment ça s'est passé, Sébastien Loeb? J'imagine que ça se passe pas mal.
Non, apparemment, ça s'est bien passé. Donc, c'est en vue de préparer le rallye d'Espagne qui aura lieu dans 15 jours. Un rallye qui est mixte, d'ailleurs. Il commence sur asphalte, il se termine sur terre. Mais Sébastien Loeb a testé la Citroën C3 WRC en mode terre. Et donc, j'ai envie de dire, le feuilleton continue. Les deux Sébastiens sont encore un peu les acteurs de ce feuilleton. On a compris que la priorité pour l'équipe Citroën, c'était de recruter Sébastien Ogier, qui est pilote actif, qui est quadruple champion du monde en titre, et peut-être même quintuple à la fin de l'année. Mais évidemment, comment se passer de Sébastien Loeb s'il fait partie de l'équation?
Et est-ce que communiquer sur Sébastien Loeb, ça permet aussi de négocier avec Sébastien Ogier? Est-ce que c'est une tactique? Comment on peut interpréter ça?
Ça peut occuper le terrain, effectivement. Pendant qu'on négocie de manière beaucoup plus, si j'ose dire, sérieuse avec Sébastien Ogier, il semble quand même que Sébastien Loeb, s'il revenait en rallye, ne ferait que quelques rallyes dans l'année, un peu à la carte. Moi, je m'interroge un peu, parce que même si c'est à la carte, je suis désolé, il sera de fait l'adversaire numéro un de son coéquipier, et ça va un petit peu brouiller la communication autour de cette équipe. Mais bon, je suis le premier à dire que ça va être génial s'il revient, effectivement. Mais bon, j'attends de voir. Voilà, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, et puis voilà, tu m'as lancé là-dessus, c'est bien que le feuilleton continue. Ouais. Mais bon, voilà, c'est évident qu'en
Espagne... Avec cette possible Dream Team française l'an prochain.
Bah oui, c'est vrai qu'elle fait rêver, mais bon, ça sera pas si évident que ça à gérer. Bon, je crois quand même que dans 15 jours, là, vraiment, on saura. Hein, donc, au moment d'arriver en Espagne. Bon, bah écoute, voilà, on a passé un petit peu en revue. Merci Aurélien,
merci
de la semaine. Et bah, on va suivre le MotoGP, bien évidemment, avec intérêt. Je vais laisser la parole à Arnaud Souk, qui va me succéder pour l'Intégral Sport. Salut Arnaud.
Salut à tous.
Avec un beau menu, je n'en doute pas, au programme.
Absolument, évidemment, avec ce fil rouge tout au long de l'après-midi, la course élite homme des championnats du monde de cyclisme sur piste à Bergen, en Norvège. On est à 116 km de l'arrivée, évidemment, on espère. Un premier Français et champion du monde depuis Laurent Brochard en 1997 dans cette course élite. Homme en fil rouge également dès 16h, la finale de Benoît Paire face à Gojovcek, c'est le tournoi ATP 250 de Metz. Et puis les directs, évidemment le rugby, les dernières minutes de la rencontre entre Lyon et Castres, 31-12 pour l'instant. Pour Lyon, tout à l'heure à 16h50, le Stade Français reçoit le rugby club toulonnais. Et puis le foot également, Saint-Étienne-Rennes, Strasbourg-Nantes, Marseille-Toulouse, tout ça c'est au programme de l'Intégral Sport.